L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur 48FM dans ce nouveau numéro de L'Oz Actuali. Et nous sommes aujourd'hui sur une émission enregistrée.
Exceptionnelle.
Exceptionnelle, effectivement. Enregistrée à Langogne. Et on va bien sûr saluer d'abord toute l'équipe de L'Oz Actuali. Bonjour Adeline.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Bonjour Caroline.
Bonjour à tous.
Et bonjour Eric.
Bonjour tout le monde.
Et donc, notre invité aujourd'hui, il s'agit de Sylvie Fauché, chocolatière Langogne. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Merci de nous accueillir. Alors, vous verrez les photos sur les réseaux sociaux. Nous sommes en plein cœur, de la fabrication du chocolat. Vous verrez aussi un petit peu quelques exemples puisqu'on a assisté il y a quelques secondes encore à l'enrobage final des chocolats. C'est comme ça qu'on dit.
C'est ça, l'enrobage, exactement.
Voilà. Donc on.
Il ne vous manquera que l'odeur et je peux vous dire que c'est déjà c'est quelque chose.
Là, on reconnaît l'effet. Un petit peu, de drogue que peut avoir le euphorisant, c'est
ah
ça.
Ah oui, moi j'avoue
du, que... Du chocolat et de l'odeur de cacao quand on rentre à l'intérieur.
On a même eu la chance de passer par la boutique avant.
Oui, tout à fait. On a fait nos stocks. Au cas où, après cette émission, vous vous rueriez sur la boutique, on a fait nos stocks, donc on est tranquille. Alors, au programme aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de chocolat et du parcours de Sylvie Fauché. Nous reviendrons ensuite, nous aurons un petit clin d'œil avec Eric sur les sondages. Il y aura une chronique également avec Caroline qui nous parlera d'une de ses idoles
sortie,
de la chanson.
D'une sortie.
Voilà, bon, d'accord. de ses idoles, on va dire.
Allez voir, c'est un peu un coup de gueule, donc ne vous attendez pas.
D'accord. Ensuite, Adeline, ce sera le hashtag de la semaine.
Oui, en effet. Hashtag les tendances de la semaine. Alors, du coup, un peu en décalé pour les personnes qui écouteront l'émission mardi, mais
oh, il y a des hashtags forts quand même toute cette semaine. Hein.
Et puis on terminera avec notre revue de presse, avec plein de choses aussi à découvrir. Et quelque chose qui va avec le chocolat, le café parfait peut-être avec Eric. Il y aura aussi les téléphériques urbains et l'ultra noir qui se combat par l'ultra rose.
C'est ça.
Allez, c'est parti, c'est maintenant. Allez, première partie de cette émission, L'Oz Actuali.
C'est compliqué de faire cette émission, pas la bouche pleine. Hein,
oui, parce qu'il y a un plateau de dégustation devant nous. Bon, Eric, c'est toi qui es en charge du portrait de Sylvie Fauché.
Non, je vais essayer de poser quelques questions aussi. Donc déjà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir réaliser notre émission donc dans l'atelier d'une ambassadrice et maître chocolatière. C'est bien comme ça qu'on dit, ouais.
Oui.
Donc déjà, un grand merci de nous recevoir, parce que je sais que là, en ce moment, c'est très chargé pour vous. Vous êtes en plein préparatif des fêtes de Noël, je crois.
Ah oui, j'ai attaqué. L'emploi du temps est extrêmement chargé. Et il n'y a qu'un mot sur l'emploi du temps de la semaine, c'est chocolat, chocolat et chocolat. Donc on ne peut pas se tromper et on est toujours au rendez-vous.
Ça commence à quelle heure une journée d'une chocolatière ?
Alors là en ce moment je commence entre 4h et 4h30. Hein, donc, parce qu'en fait c'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant que je vais fabriquer pour Noël en fait. C'est maintenant que je commence, donc tout en même temps en approvisionnant le magasin où il y a toujours des manques. Donc lundi c'est un programme d'écorce d'orange, de caramel au beurre salé, de tablettes de chocolat. Sophie vient de me dire qu'elle m'avait fait une liste, donc en fait en même temps on prépare nos stocks pour Noël, mais à côté de ça, il faut réapprovisionner le magasin. c'est c'est vraiment une période très chargée, mais c'est grisant aussi. Voilà.
Et donc vous êtes originaire d'ici même, de Langogne ?
Oui, ouais. Je suis née à Langogne.
Vous avez toujours été attachée à ce territoire ?
Je m'en suis détachée un petit moment, et c'est vrai que quelque part j'ai toujours été attachée à Langogne parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a ramenée à Langogne. J'aurais des dizaines d'anecdotes ou de l'accent que j'avais un peu bizarre pour les Parisiens quand j'étais à l'école à Paris. À Lyon aussi, un accent bizarre, mais tu viens d'où ? Bah, je viens de la Lozère, de Langogne. Il y avait toujours quelqu'un autour qui connaissait Langogne, et je trouvais ça formidable. Et moi, j'ai toujours bien aimé être un peu, avant de l'être, un peu ambassadrice de Langogne au départ, et puis de la Lozère. Donc, et là, ça s'est concrétisé il y a quelques mois, donc c'était vraiment un honneur pour moi.
Et donc, ce qu'il faut expliquer, hein, donc pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas...
Vous entendez que Caroline a du chocolat dans la bouche.
Bah, je suis désolée, je suis en train de goûter la ganache verveine du chemin de Stevenson, c'est délicieux. C'est dur de résister, hein. Adeline me tape du coude parce qu'elle fait comme moi. Il faut expliquer donc que Sylvie fait partie du CRU 2016 des ambassadeurs du département, un CRU VIP un peu cette année, donc voilà, c'est une chance effectivement, comme le disait Eric, d'être reçu dans cet atelier.
Et pour revenir au chocolat, vous avez eu très jeune le goût du chocolat, justement ?
Ben non, justement pas, parce que bon, j'ai toujours été un petit peu costaud, hein, et j'avais pas trop le droit, quand j'étais enfant, aux sucreries et au chocolat. Donc les sucreries, c'était pas quelque chose que j'appréciais beaucoup. Par contre, le chocolat, c'était une véritable frustration.
Ça
et...
crée le désir, du coup.
Et je pense que ça vient de là, parce que jamais j'aurais pensé un jour que je deviendrais chocolatière. J'ai fait des études d'hôtellerie, et là je me retrouve, il y a des fois je me dis, mais qu'est-ce que, comment, voilà, tu es là, et des fois je me dis, est-ce que c'est pas né de cette frustration, est-ce que je me venge pas maintenant, parce que maintenant j'ai un accès no limite à tous les chocolats, et pas des mauvais, quoi, des bons.
Donc, comme vous venez de le dire, oui, c'est ça. Vous avez fait donc l'école d'hôtellerie, hôtelière, pardon, à Saint-Chély-d'Apcher. Vous avez traversé la Lozère.
Oui, voilà, oui. Oui. J'ai fait après en seconde, de la seconde jusqu'à la deuxième année BTS, j'ai été à l'école hôtelière à Saint-Chély, 5 ans.
Vous étiez d'ailleurs parmi les invités des 40 ans cette année, hein, des invités prestigieux, dont vous. Donc,
ça... Oui, ça aussi, c'est une aventure incroyable, parce qu'il y a quelques années, j'étais dans les élèves et jamais j'aurais pensé là aussi que je me retrouverais sur l'estrade à raconter des anecdotes ou à faire partager mon expérience, mon envie, ma motivation... plein de belles choses pour les élèves.
Alors on peut dire que c'est une journée qui a réuni des passionnés. Alors vous, du chocolat, les autres, des autres mets qu'on peut trouver à table, mais c'était vraiment une journée de passion, quoi.
Ah oui, de passion et passionnés. Et c'est vrai que j'ai fait de belles rencontres où j'ai re-rencontré des personnes, où on était à l'école ensemble. Donc c'était vraiment une belle journée. Et puis bon, avec Jacques Ribeil et puis le fils de Régis Marcon, c'était fabuleux, parce que bon, on s'est croisés de nombreuses fois, et là c'était un grand moment.
Et c'est justement une rencontre qui vous a ouvert au monde du chocolat, je crois, j'ai cru lire.
Oui, il y en a eu tellement.
Comment ça a commencé, cette histoire chocolat ?
Ben oui, j'ai eu l'occasion. Bon, j'ai eu l'occasion d'aller travailler chez Monsieur Briette à Prévenchère, il y a une quinzaine d'années, qui m'avait dit, ben écoutez, essayez de venir avec moi. Je lui ai dit, moi, je veux bien venir avec vous, mais je connais rien au chocolat. Alors, je serai peut-être pas d'une grande aide. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. J'ai fait, allez, c'est parti. Et l'aventure est à attaquer ici. Et voilà, j'ai passé 4 années avec Monsieur Briette, exclusivement avec lui. Et on a eu des échanges.
Hein,
ah oui,
on peut
oui.
Dire que...
C'était vraiment j'ai vécu vraiment des grands moments là. Voilà.
Et donc après, vous partez à Lyon ?
Ah ben après Monsieur Briette, oui, j'ai eu l'occasion et une chance de me retrouver embauchée chez Bernachon par aussi un concours de circonstances assez incroyable. Bon, je vais pas tout raconter, mais c'était une maison où j'aurais jamais osé envoyer mon CV, même s'il était déjà pas si mal remplie. Et un jour, il y a le téléphone qui sonne chez moi. Mon père répond, il dit c'est la maison Bernachon qui appelle. Je dis maison Bernachon, c'est quoi ça? J'ai dit d'un coup, il y a eu un éclair. D'un coup, j'ai dit mais maison Bernachon à Lyon. Et voilà quoi, me voilà partie pour 6 mois de CDD pour la saison de Noël et de Pâques. C'était en 2003 et ben je suis restée 10 ans. Voilà. Donc encore une aventure incroyable où j'ai eu l'occasion de travailler des produits d'une exceptionnelle, de rencontrer des personnes encore exceptionnelles. Et voilà quoi. Et voilà. Mais on en rencontre tout le temps. Enfin, je pense que quand on est passionné et qu'on a envie de découvrir, qu'on est motivé, qu'on est curieux, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Et je trouve que c'est... Enfin, voilà. Moi, c'est un peu... Depuis que je suis sortie de l'école, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Alors, je pense que c'est le résultat d'une passion. Voilà. Ça nous permet d'aller un peu partout et de rencontrer plein de personnes.
La passion et la curiosité, c'est quand même sympa comme
comme moteur, ouais, hein, ouais.
C'est ça. Donc vous avez rencontré, ça vous a permis de rencontrer donc les grands noms de la cuisine française.
Oui.
Paul Bocuse, Ducasse.
Tous de la région. Il y en a même avec qui j'ai sympathisé. C'était surréaliste. Parce que quand je me revois voir les photos de Paul Bocuse à Saint-Chély-d'Apcher, je me disais, oh, un jour j'irai travailler chez lui. Et là, le voir traverser la chocolaterie, rentrer dans notre laboratoire et dire avec un accent lyonnais que je n'oserais pas imiter ici aujourd'hui, bonjour mesdames. C'était incroyable. La première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? Je ne savais pas que mes patrons étaient... C'était la famille à Bocuse. Et puis après, il y en a eu plein. Encore une fois, j'ai plein d'anecdotes. Une fois, la sonnerie sonne du passage de chez Bernachon. Il n'y avait que moi pour ouvrir. J'arrive à la porte. Il y avait Anne-Sophie Pic. Il y avait Jean Piège. Enfin, en fait, il y avait un groupe de super grands cuisiniers. Et je suis restée comme ça. J'étais tétanisée. J'ai fait... Et à côté de ça, il y avait mon chef pâtissier que j'avais eu chez Marcon. Il me dit, allez Sylvie, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi un peu. Et j'ai dit, mais tu es là toi aussi? Donc voilà, encore plein de belles personnes et tout. Et c'est moi qui ai eu l'immense honneur de leur faire visiter la maison et avoir beaucoup d'échanges. Et voilà, encore une fois, super beau, super chouette. Voilà.
Et depuis quelques années, donc votre retour à Langogne?
Oui.
Alors justement, comment un jour on se dit, bah ça y est, je peux me lancer toute seule et créer ma propre boutique, ma propre gamme?
Je pense que c'est sorti du fait que quand je suis... après 10 ans chez Bernachon, c'était une très belle maison, mais je pense que j'étais arrivée au bout et j'aspirais à autre chose. Mais quoi? Je ne savais pas, parce que j'ai failli changer complètement de métier tellement que je ne savais pas où j'allais, ce que j'allais faire. Et puis bon, l'été 2011, je suis revenue chez mes parents à Langogne, passer mes vacances, et j'avais décidé de faire goûter à mes amis une recette que j'avais goûtée chez un autre copain restaurateur. C'était une tarte aux pommes au thym à l'huile d'olive. Et j'en ai préparé plusieurs. J'ai dit à mes amis, hop, vous allez venir goûter ça. On va se mettre sous la halle le samedi après-midi après le marché. On va installer les tables de bar du café de la halle. On devait être 15, ils sont arrivés 35. Donc les parts étaient super petites. Mais c'est quand j'étais en train de préparer ces tartes aux pommes au thym à l'huile d'olive au centre-ville, mes parents habitent au centre-ville de Langogne, il y avait le marché, il y avait les odeurs, c'était au mois d'août, il y avait du monde. Et d'un coup, j'ai dit, mais pourquoi tu ferais pas du chocolat à Langogne? Et c'est là que j'ai eu un éclair dans la tête. Je ne croyais pas que ça pouvait se faire. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai trouvé le nom de la boutique, comment j'allais faire, comment j'allais m'organiser. Et à la fin de l'été, je suis repartie chez Bernachon avec plein de projets dans la tête. Mais le plus dur, c'était de la garder pour moi. Et que je commençais les travaux d'un côté, mais qu'il fallait faire Noël chez Bernachon tout en restant discrète, quoi, jusqu'à ce que je puisse le dire à mes patrons. Voilà.
On suivra la suite, on parlera justement de cette production que vous faites ici à Langogne dans la deuxième partie de l'interview. Et on va tout de suite se faire une petite coupure pour un petit regard sur les sondages avec Eric. Allez donc, cette chronique sondage, Eric.
C'est ça, donc on vient de le voir lors des dernières élections américaines, les sondages ne sont pas une science fiable et sont de plus en plus décriés. Et pourtant, nous allons en manger des sondages à toutes les sauces jusqu'à la prochaine élection présidentielle de 2017. Bon, il faut dire que les Français adorent les sondages. Bon, déjà, pour essayer de savoir comment vivent leurs voisins, qui vote pour qui, quel est le meilleur plat à manger suivant la météo, enfin voilà, bref. Coluche disait ainsi... Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Les médias et les instituts l'ont bien compris et nous abreuvent de baromètres et autres tendances à longueur de journée. Bon, alors, ces sondages, ils sont réalisés sur des panels soi-disant représentatifs, une population donnée, pour une tranche d'âge donnée, suivant sa religion, son état de santé, sa couleur de cheveux, enfin, etc. etc. Bon, on le voit bien, donc les sujets de sondage ne manquent pas. Je viens de voir par exemple donc, un sondage commandé par un site de vente en ligne. La plupart des questions portaient sur les besoins des automobilistes et leurs passagers, les accessoires utiles dans un véhicule, le nombre de kilomètres parcourus. Et au milieu de toutes ces questions, il y avait cette question autrement plus capitale, avez-vous déjà fait l'amour dans votre voiture ? Réponse.
Voilà. Je disais justement tout à l'heure qu'on n'avait pas la chronique un petit peu piquante et de Guillaume, voilà.
J'ai voulu laisser la surprise.
On aura quand même un petit lien avec la sexualité de nous les Français. Voilà.
Et donc 285 personnes sur 500 ont répondu oui. Mais donc quelle est l'utilité à cette question ? Aucune. Si ce n'est qu'en attirant l'attention avec cette question de galipette, justement, ils ont fait un mini-buzz et en ont profité pour nous vendre la boîte en nous la faisant passer pour l'entreprise la plus incontournable pour tout ce qui est vente d'accessoires automobiles. Donc, aucun rapport. Bon, après ça, c'était pour les sondages commerciaux. Mais les plus utilisés portent sur la politique. Et avec les primaires de la droite, nous commençons déjà à les cumuler en cette fin d'année. Et plus les politiques les critiquent, les sondages, plus ils en commandent, en fait. C'est les plus gros consommateurs. On vient ainsi de voir que Fillon, qui était loin derrière pendant plusieurs mois sur les primaires, il vient de repasser devant.
Donc dans alors, il faut rappeler que l'émission est donc enregistrée samedi.
Tu prends des risques, Eric.
Ouais, là, tu prends de gros
risques. Ah, dans les sondages, il est repassé devant. On verra si les résultats, ça fait comme pour Trump, justement. Justement, encore un autre exemple. Il y a deux jours, il sortait un sondage sur la présidentielle. Alors, personne ne sait qui seront les candidats, mais il y a déjà des sondages quand même sur la présidentielle. On nous demande si on votera pour un tel, contre une telle, suivant qui c'est qui est passé au premier tour ou au second tour, et si on fera le report de nos voix. Donc voilà, c'est un peu ridicule, surtout que, en fait, la marge d'erreur est telle que ça n'a pas de sens. Et pourtant, les médias, ils continuent à publier, à commenter toutes ces enquêtes. Donc, mais pourquoi cette sondagite ? Parce qu'on peut appeler ça, je crois, une sondagite.
Hein. En fait, aiguë même, on peut le dire. Ouais.
Donc déjà, c'est qu'il y a le culte du chiffre, l'obsession de la quantification. Et puis ensuite, il y a l'illusion de se croire devin. Genre, je serai le premier à vous avoir prédit qui c'est qui sera président. Et puis il y a aussi parfois un calcul politicien, justement, puisque nous, la présidentielle, c'est au suffrage universel. Donc c'est pas pour des idées qu'on vote, en gros, c'est pour un homme. Donc c'est pour ça que les sondages, ils marchent aussi bien. Les sondages, ils légitiment le favori. Par exemple, là, sur les primaires... On vote pas forcément pour celui pour qui on a envie de voter, mais on vote pour celui qui pourra empêcher au tour suivant de gagner le camp d'en face. C'est un peu ça le principe. Ainsi, c'est de la même façon que c'est l'audimat qui règne dans le petit monde de la télévision. Et bien en politique, c'est la sondagite qui fait loi. Alors, pour quelques sondages, on va revenir dessus. Donc sachez que 59% des personnes qui donnent régulièrement de l'argent à des associations caritatives, ont voté pour Hollande lors des dernières présidentielles. 66% des Français sont favorables à la tenue de deux débats pendant l'entre-deux-tours. Un tiers de nos concitoyens cite l'honnêteté comme qualité principale du ou de la future chef de l'État. Alors là, c'est étrange parce que les candidats proposés, ils n'en sont pas toujours fournis. Ça, c'est... 77% des électeurs n'en ont absolument rien à carrer de, que le président soit une présidente, justement. Et qu'un tiers des femmes...
Alors 77%, alors là, moi, j'aimerais le voir dans les faits quand même, hein, parce que je crois qu'on est quand même loin d'en arriver là. On vient de le voir aux États-Unis et...
Je sais pas, c'est contre une femme qu'ils ont voté ou c'est pour un homme ?
Ah, je pense qu'il y a ça joue quand même inconsciemment et que.
Justement.
Moi, je reste convaincu qu'en France, on n'est pas prêt. Enfin, alors, on verra. Hein, j'espère avoir raison sur ce point pour les prochaines élections.
Justement, en parlant des femmes, un tiers des femmes ont menti à leur conjoint sur leur bulletin de vote. Et les chats votent moins Marine Le Pen
que les
chiens.
Et les hommes, ils disent ? Non, parce que c'est facile de nous balancer ça, Eric. Mais est-ce que les hommes, ils mentent à leurs femmes ?
C'est 18%. Les hommes, c'est 18%, pas un tiers. Et donc, les chats votent moins Marine Le Pen que les chiens. Mais ça, tout le monde le sait, qu'ils sont d'extrême droite, les chiens. Bon, allez. Plus que 180 jours avant la présidentielle. Ça devrait nous faire environ 180 sondages à analyser.
Voilà, des fois, il y en a deux par jour. Hein.
Donc, voilà un secteur qui ne connaît vraiment pas la crise. Bon, après, il existe quand même un sondage qui est très intéressant. Je pense connaître un peu la réponse autour de la table. Est-ce que vous aimez le chocolat ?
Absolument pas du tout.
On est à 100%.
Je force un peu et ce soir.
Je crois qu'on est à 100% pour le oui.
Le bon chocolat.
Merci Eric pour cette chronique. Allez, c'est le moment de la première coupure musicale dans cette émission, et donc c'est le choix de l'invité. Alors, vous nous disiez en off que parfois vous chantiez dans un autre métier quand vous étiez chez Bernachon, que c'était un petit moment pour se redonner du courage. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez là pour nous remotiver un peu dans cette émission ?
Alors, en ce moment, j'aurais envie de vous proposer l'Eretta Mitsuko avec la chanson C'est comme ça, parce qu'elle est très entraînante. Elle est pleine d'énergie et là, c'est ce qu'il nous faut en ce moment pour bien travailler et être à fond tous les jours. Voilà.
Super.
Ça le grince juste pendant.
Allez, on se retrouve maintenant toujours avec Sylvie Fauché.
Un plateau dans... dont les chocolats diminuent, quand même, ça. Il faut le dire.
Voilà, on est toujours donc à Langogne pour cette émission enregistrée. Et on va parler maintenant un peu de ce qui fait votre actualité. Donc, c'est cette production de Noël. Est-ce qu'il y a des produits que vous faites que pour Noël?
Les sapins de Noël. Oui, il y a.
Des sapins en chocolat?
Oui, des sapins en chocolat. On les a mis au point, là, il y a 2 semaines. Et. La semaine prochaine, c'est mon programme. Ça sera comme une tablette de chocolat en forme de sapin de Noël, décoré avec plein de petites. Une tête de renne très rigolote, un petit bonhomme de neige, des boules, comme si c'était un sapin qui était à la maison. Et donc, j'ai réussi à le mettre sur pied. Et je trouve que c'est sympa. Voilà, ça sera ce qui sera. D'habitude, je le fais en forme de tablette. Et cette année, ben, je les ai fait en forme de sapin. J'ai fait des mini bonhommes de neige aussi, en essai, comme ça. Et voilà,
tout justement, ça va être... parlez-nous un peu de cette période de création. Là. Comment les idées viennent? Comment on met en œuvre?
Ben, c'est tout le temps, en fait. Je veux pas être... avec en toute humilité, c'est tout le temps. Je suis toujours en train de penser, mais comment on va faire ça? Et toujours un peu d'anticipation. Et j'ai une apprentie avec moi, avec Clémence. Et quand on est toutes les deux, je pense que c'est des moments privilégiés. Quand on travaille, j'essaye de lui faire comprendre et de lui transmettre cette façon de penser au travail. Et dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Ah, mais ça, si on faisait comme ça. Ah, mais ça, on le marque dans un coin et on le fera. J'ai déjà pensé à des choses pour Pâques, j'ai déjà pensé au salon du chocolat au Japon pour l'année prochaine, le salon du chocolat 2018. Voilà, c'est toujours dans ma tête et c'est toujours en train de naviguer, de passer à droite, à gauche. Voilà, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne.
Et après, vous faites des essais, on se loupe, on recommence.
Oui, on se loupe, on recommence, on change. On change de ce qu'on avait prévu au départ. Et puis, ça nous donne d'autres idées. Et voilà, bon, il ne faut pas non plus... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... j'aime pas faire du déchet. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc, on essaye d'être raisonnable et de faire les choses intelligemment. Voilà.
On peut devenir testeur de nouveautés?
Alors, ça existe, sauf que je ne veux pas vous décevoir, mais la liste, quand on la déroule du magasin, elle traverse la halle, pas en largeur, mais en longueur, parce que tout le monde veut être... C'est comme un parchemin, vous savez, caricature. Hop là, attention, et voilà, on écrit. Voilà.
Et vous avez quand même des proches qui testent, qui vous donnent leur avis? Comment ça se passe?
C'est difficile parce que ce que j'attends comme avis, là c'est vraiment professionnel, j'attends qu'on me dise, que ça soit la critique positive, je veux pas qu'on me dise « Ah c'est bon, qu'est-ce que ça veut dire ?» Moi il faut qu'on me dise l'équilibre, le goût, comme en cuisine, si ça a trop salé, trop sucré, encore ça... c'est ridicule. Non, il faut qu'on me dise s'il y a de l'équilibre. Si on va, si entre le chocolat et le goût que j'ai apporté à l'intérieur, comme une ganache citron par exemple, est-ce que tous les deux vont avoir leur place? Ça pour moi c'est important. Donc je me tourne souvent vers les professionnels. Ça m'arrive par exemple de faire, quand je fais un essai, je sors du laboratoire, je cours, je vais à la boucherie en bas. Je vais voir mes collègues, voilà, et je dis, voilà, est-ce que vous pouvez goûter ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Quel goût vous allez trouver? Est-ce que c'est révélateur? Voilà.
Heureux commerçant de Langogne, quand même. Hein.
C'est bien d'être voisine de Sylvie Fauché.
Je le fais pas tout le temps. Hein.
Ça donnerait presque envie de s'installer comme commerçant à Langogne.
Autour des Halles.
Venez, dans un métier de bouche. Pas de papillotes chez vous, parce que c'est quand même un des incontournables de Noël.
Oui, et vous qui avez été dans la région lyonnaise longtemps, du coup.
Ne me parlez pas de papillotes, si vous saviez. Alors, vous parlez des papillotes, je vais vous dire une petite anecdote. Quand on était chez Bernachon, on faisait les papillotes. On les faisait, donc on faisait les chocolats, bien entendu, mais on les pliait à la même. On pliait les papillotes à la main, donc c'était les chocolatières qui venaient, donc on ne travaillait pas le lundi, et à partir de mi-novembre, tous les lundis, on venait travailler au laboratoire. Il y avait une immense table, mais magnifique table en bois dans le laboratoire. On mettait des bancs et on se mettait le long de cette table. Et moi, j'avais la couleur marron, ma collègue avait la couleur verte, mon autre collègue d'ala dorée. Et on se battait toutes pour l'argenté parce que l'argenté se pliait bien. Donc, et moi, comme j'étais la dernière arrivée, je n'avais jamais l'argenté. Pourtant, j'étais toujours la première au labo, mais tant pis. Mais c'était un grand moment parce qu'on était ensemble, il y avait une ambiance. Il n'y avait pas les machines derrière. C'était comme aujourd'hui dans le labo, c'était calme. Et c'était un moment plaisant aussi.
Voilà. Donc, pas de papillotes à Langogne.
Pas de papillotes. Je n'ai pas le temps de les plier à la main.
Mais alors, on viendrait bien le lundi sur une grande table plier des papillotes, nous.
Le problème, c'est qu'on risque d'en manger une sur deux.
C'est
et
ça.
Et du coup, sur la production, à la fin de...
C'est ça, peut-être.
Et j'ai des sérieux... sérieuses pensées comme ça, parce que quand je vois le plateau que je vous ai amené et qui est en train de réduire,
de fondre
à vue d'œil, je me ferai éventuellement beaucoup de soucis pour la production de papillotes.
Est-ce qu'on arrive à s'écœurer? Est-ce qu'il y a des moments où le chocolat, vous ne pouvez plus le voir en peinture?
Je pense que ça, après Noël. Hmm. Après Noël, parce que bon, il faut quand même être honnête. Oui, il arrive un moment où... Mais vraiment, c'est très petit. Moi, je suis très gourmande et j'en mange malheureusement toute la journée du chocolat. Je ne suis jamais écœurée, tout le temps. Et puis bon, je goûte. Il faut que je goûte dans ma fabrication. Donc, et puis...
Mais on dit qu'on ne s'écœure pas du bon chocolat, de toute façon.
Non, je ne pense pas, parce que les clients, ils reviennent. Alors,
bah, oui, tout à fait. Justement, vous pouvez nous dire un mot sur vos produits, peut-être, parce qu'on ne fait pas de bon chocolat sans bonne matière première.
Voilà, mais vous avez dit, je pense que vous avez dit une chose qui était importante. J'avais un patron qui disait, on ne peut pas faire de très bonnes choses avec des bonnes choses. Il faut des très bonnes choses pour faire des très bonnes choses. Et c'est ce que je mets en pratique, en fait, tous les jours dans mes fabrications. Je fais une sélection rigoureuse des produits. Ça m'arrive d'en changer ou de renouveler ou de là on parlait des choses qu'on imaginait là. Je pense que l'année prochaine je vais trouver d'autres provenances de chocolat à travailler. J'ai déjà plusieurs pistes. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est que les produits soient de première qualité. Et je pense que c'est un des secrets pour faire le secret pour faire des très bons produits.
Est-ce que c'est important aussi d'avoir des nouveautés et des nouvelles recettes avec des nouveaux goûts régulièrement ou vous avez des produits que vous renouvelez chaque année et qui sont voilà.
Alors effectivement, c'est vrai que j'ai des clients qui me demandent alors qu'est-ce que c'est les nouveautés aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Ce qui est important, j'en fais une ou deux. Parce qu'en fait, en ce moment, là, j'ai plus de place dans ma vitrine. Donc, je ne sais plus où je pourrais les mettre. Donc, j'essaye, je mets des bocaux, je vais mettre des perles. Ça va m'enlever un peu de place dans la vitrine. Je vais pouvoir faire autre chose. Et puis, d'un coup, je me dis, mais non. Ce qui est important, c'est que tu fasses ce que tu fais en ce moment. Il faut que tu le fasses bien. Et il faut maintenir la bonne marche de travail, la bonne qualité. Et à vouloir trop faire... c'est de plus en plus. Je pense que la maîtrise est plus dure. Il y a plus de produits à maîtriser. Il y a aussi les stocks et tout. Non, moi, je. Donc, des fois, j'explique ça aux clients quand je suis au magasin. Je leur explique que pour moi, ça ne sert à rien que je fasse trop de nouveautés pourvu que je maintienne la qualité de mes produits qui sont déjà là.
Mais vous nous disiez, vous avez quand même une gamme assez large, quand même, déjà, de quoi régaler.
J'en ai, une 40, ouais, 40 à 50.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal.
Est-ce que vous avez un produit phare, un chocolat qui est votre préféré et qui du coup est un peu votre signature?
Non, ils le sont tous. c'est ça qui m'embête, c'est que j'arrive pas à faire, à avoir un choix. Alors tout à l'heure, vous avez goûté un praliné noisette avec des morceaux d'orange confit. Je l'adore. de la noisette et de l'orange. Mais ça, il y a des personnes qui vont pas aimer l'orange et le chocolat, donc c'est difficile d'en parler. Mais
on est fan de l'orange avec le chocolat.
Vraiment.
L'écorce d'orange aussi. C'est...
On s'est rué sur les orangettes.
Il y en a plus d'ailleurs. Hein.
C'est clair.
Ils m'en ont même pas laissé.
On avait déjà mangé avant qu'on arrive.
Vous nous avez fait goûter un truc très très amusant tout à l'heure aussi. Avec un chocolat au sucre pétillant. Voilà, il y a aussi un peu des moments où vous avez envie de faire des petites blagues à vos clients, non ?
Oui, bah, ça c'est un peu la mode en ce moment. C'est un produit qu'on trouve chez les restaurateurs qui en mettent dans leurs desserts. Et ben, moi j'ai trouvé qu'il fallait que je l'utilise aussi. Donc on fait je fais un praliné amande noisette avec du pétillant. Je fais des tablettes noires et lait pétillant. Et j'ai une petite fille, un jour, qui m'interpelle, qui me dit « Pourquoi tu n'en ferais pas dans du blanc caramel ?»« Bon, mais si ça... Allez, c'est parti !» Donc, du coup, j'ai fait blanc caramel et pétillant. Et allez, voilà une autre tablette. Donc, ça va très vite. Et c'est vrai que j'aime bien écouter, même, que ce soit les petits, les grands. Tout le monde a des suggestions. Donc, j'aime bien écouter. Et ça m'arrive de mettre en pratique.
Et donc, vous ne faites pas, par contre, que de la vente en boutique ? Il y a aussi un site ?
Oui, il y a un site internet, mais c'est vrai que la majeure partie des produits partent par le magasin. Le site internet, c'est une vitrine sur internet. On peut aller voir, on peut commander, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que souvent, c'est parce qu'il y a eu le passage avant au magasin. Voilà, il y a déjà eu une première rencontre, une première découverte. Voilà.
Et le Japon, parlez-nous un peu du Japon, parce que visiblement, c'est un débouché, un petit, un grand.
Le Japon, c'est quelque chose, c'est une histoire encore exceptionnelle. Enfin, j'en reviens encore pas, parce que c'était l'année dernière, ils sont venus me voir, donc par l'intermédiaire quand même de la maison Bernachon. Ils cherchaient des nouveaux chocolatiers, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai dit, mais pourquoi pas ? Et ils sont arrivés à Langogne, parce qu'ils voulaient que je leur explique les chocolats au téléphone. J'ai dit, mais c'est impossible, il faut que vous veniez jusqu'en Lozère. Ils sont venus jusqu'en Lozère, donc déjà, c'était absolument exceptionnel. Et voilà, et donc, je leur ai fait goûter. J'ai envoyé des échantillons au Japon. Il en est débouché une commande qui ne devait pas être trop grosse pour moi, mais c'était vraiment pas mal du tout. Et en janvier 2016, je me suis retrouvée à Tokyo. Incroyable, encore une histoire incroyable. Et là où l'histoire elle se continue, c'est quand vous avez les Japonais qui vous rappellent, au mois d'avril, qui vous disent « on va venir vous voir au mois de mai ». Et là, vous avez les larmes aux yeux qui arrivent parce qu'on se dit c'est pas possible quoi. Et j'ai gagné mon pari avec toute mon équipe, on a gagné notre pari. Et là, ben je repars au salon du chocolat 2017. C'est du boulot de folie, mais avec encore une fois des rencontres, quelque chose d'incroyable. Et je trouve que c'est génial parce que l'année dernière j'étais allée avec le couleur Lozère où j'étais en couverture, ouais. Et je l'avais ouvert là-bas parce qu'ils me disent c'est où Langogne, les Japonais. Ouh là là, alors attendez, ça j'avais pas tout à fait prévu voilà. Et ils m'ont laissé faire des conférences, enfin je leur ai pas demandé, ils m'ont dit on va vous allez faire des conférences. J'ai dit mais vous voulez faire des conférences sur quoi? Sur votre région? Formidable, je connais par cœur. Et j'ai demandé à l'office de tourisme à Langogne de me faire un petit condensé de la culture, de l'histoire, de la gastronomie, du tourisme à Langogne et en Lozère. Et donc je suis arrivée avec mon support télévisé et voilà, avec les dégustations et les histoires. Et
vous comprenez pourquoi Sylvie est ambassadrice de la Lozère.
Voilà, je crois qu'effectivement c'était la meilleure démonstration de ce rôle d'ambassadeur.
Juste peut-être un petit mot sur votre équipe. Parce que je crois que c'est important.
Oui, pour moi, c'est important parce que si j'avais pas mon équipe, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et là, en fait, je viens de la renouveler et on n'est qu'une équipe de filles. Alors, c'est sympa parce que on s'entend bien. Bon, et puis, pour moi, c'est important d'avoir un bon esprit d'équipe. Alors, donc, chacun y met du sien. Il faut faire des concessions. Il faut donner des bonnes lignes de conduite quand même, parce que c'est important. Et voilà, et bon, ça se passe bien. Enfin, je fais tout pour, et je pense que de l'autre côté, les filles, elles ont compris et elles font tout pour aussi. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien.
Vous êtes quatre, c'est ça, dans l'équipe ?
Voilà, exactement, oui.
Deux sur la production et deux sur la vente.
Voilà, c'est ça, oui.
Mais écoutez, merci beaucoup en tous les cas de ce témoignage. On sait que voilà, l'adresse, c'est Secret de Cacao. C'est juste à côté de la halle à Langogne pour venir faire vos achats avant Noël.
Même
voilà,
après Noël.
Et même après et tout le temps. Enfin voilà, ça fait une bonne raison de s'arrêter aussi à Langogne. On poursuit cette émission avec la chronique de Caroline juste après ça. Allez Caroline, tu nous parles de Julien Clerc.
Oui, je vous parle de Julien Clerc, d'un petit épisode familial qui s'est déroulé ce vendredi soir. Alors, à l'œil goguenard de mon mari, quand on a entamé la conversation, j'aurais dû me méfier. Mais bon, j'arrivais d'une soirée chez les commerçantes mandoises où j'avais bu quelques bulles et la fleur au fusil, ben voilà, je me suis pas méfiée. Et donc, mon mari de m'annoncer, avec cet œil goguenard un peu ravi, qu'il venait de voir chez Anne-Sophie Lapix, Julien Clerc, que vous savez tous être un de mes chanteurs préférés, le chouchou de ma maman en tout cas, et de me dire, ah ben, tu sais, il y a des fans qui l'ont vu des centaines de fois, elle. Bon, c'est pas mon cas, on l'a vu très souvent, mais j'avoue, pas des centaines de fois. Eh ben, le Julien Clerc, pour ses fans inconditionnels, parce que là, pour le coup, elles me battent largement, il a fait un concert privé l'année dernière,
oh là là.
À leur demande.
Oh, tu dois être dégoûté.
Alors voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un coup de gueule, parce que franchement, je trouve ça, mais bon...
Limite,
voilà, quand même. Moi qui vous en parle quasiment à chaque émission, je trouve ça un peu limite. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est que Julien Clerc était invité chez Anne-Sophie Lapix ce 18 novembre, parce qu'il sort un album, le best-of de ses 40 ans de carrière. Et que suite à ce concert privé où les fans avaient choisi les chansons, il a décidé de leur laisser ce choix aussi pour ce best-of. Donc c'est un best-of de 40 chansons, 20 qui sont des chansons incontournables, et je suis sûre que si je vous donne quelques titres comme « Ma préférence »,« Le cœur volcan »,« Ce n'est rien »,« Fais-moi une place », voilà, enfin on les a tous en tête. Et puis 20 autres chansons beaucoup plus intimistes qu'on a beaucoup moins entendues. Et puis dans cet album Best Of, il y a un inédit, Entre elle et moi, qui commence à tourner sur les platines des radios, qui est un hommage à sa femme actuelle. Alors voilà, bon, ça ne me réjouit pas non plus, ça finit de me mettre très en colère tout ça. Voilà, bon. Alors bon, je ne peux que...
Deux semaines de suite, hein, entre l'un qui...
Ouais, là je trouve que ça commence à faire beaucoup. Mon monde s'écroule un peu, ça devient difficile, j'avoue.
Après bon. Frédéric Lopez, Julien Clerc.
Donc j'imagine
un petit morceau de chocolat, tu verras.
J'imagine que dans 15 jours, il va se passer quelque chose avec de la housse, et puis voilà, la boucle sera bouclée, je pourrai entamer 2017 et tout renouveler. Enfin bon... J'aurais vraiment dû me méfier de ce petit œil goguenard hier soir. Bon, en tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller acheter ce best-of quand même, avec les meilleures chansons de Julien Clerc. Quand on lui demande... Alors, j'ai dit 40, c'est 50 ans, bien sûr, de carrière. Hein. Quand on lui demande pourquoi il a donné la parole comme ça à ses femmes... à ses fans-femmes, sûrement. Il répond très simplement, d'abord, parce que c'est un peu grâce à ses fans que je suis là. Voilà, alors bon, je m'inclus quand même un peu dedans, j'avoue, parce que bon, ça serait pas, comme tu le disais Adeline, ça serait pas trop juste autrement. Donc bon, en tout cas, précipitez-vous. Alors je voulais vous demander, puisque chez Anne-Sophie Lapix, je suis allée revoir l'émission en loose day, je l'ai pas dit parce que, comme mon mari l'adore, quand on le regarde, je dis « Oh non, c'est nous, cette émission, je suis allée regarder en loose day tout à l'heure quand même pour vérifier. » Je trouvais les traces nulle part de ce concert privé, ça m'agaçait quand même cette histoire. Et donc... chez Anne-Sophie Lapix, ils ont fait un petit tour de table avec chacun sa chanson préférée. Donc ben voilà, j'ai choisi de vous poser aussi la question. Quelle est votre chanson préférée de Julien Clerc ? Pour laquelle auriez-vous voté pour ce disque ?
Mais moi, c'est, j'avais répondu ma préférence sur notre petit groupe Facebook, mais voilà, j'ai grillé la priorité à Adeline.
Mais alors, c'est une chanson préférée oui. de beaucoup, parce que Sylvie, vous m'avez dit la même chose tout à l'heure. En
moi aussi, oui, ma préférence.
Elle
oui.
me l'a même chantée dans la rue.
Ouais. je vais pas le refaire. Hein.
Eric ?
Donc, moi j'ai demandé à mon beau-père Marcello. Donc,
non, parce que alors toi ça t'intéresse pas du tout, Julien Clerc ?
Si, mais c'est pareil, je crois que j'aurais dit ma préférence. Et, donc, c'est pour avoir un autre avis. Donc lui il m'a dit ouais, la Californie.
Et toi, Adeline, alors du coup ?
Alors moi du coup je me suis fait griller la priorité aussi par Guillaume, puisque j'aurais répondu ma préférence. Mais du coup j'ai sondé mon papa qui aime beaucoup Julien Clerc. Et lui m'a parlé d'une chanson qui s'appelle Double Enfance, qui fait partie de ces chansons quand même un peu moins connues. Mais voilà. Un très beau texte et une chanson que j'aime beaucoup aussi.
Mais voilà, on écoutera ce nouveau titre en deuxième coupure musicale voilà, tout de suite après la rubrique hashtag dans quelques secondes. Allez, c'est le grand rendez-vous de cette émission Les Actualis. On en a l'habitude chaque quinzaine. C'est le moment de la chronique hashtag Adeline. Que s'est-il passé sur les réseaux sociaux cette semaine ?
Alors du coup, on sera un petit peu en décalé pour cette rubrique hashtag, mais j'avais envie de vous parler d'un hashtag que j'ai trouvé aujourd'hui et du coup que je vais vous dévoiler. Alors c'est le hashtag C'est fait ouf. Et où du coup c'est un hashtag qui met le Made in France à l'honneur.
Et oui, puisque c'est
semaine.
Le salon du Made in France voilà, cette semaine.
Voilà, exactement. Donc dans le cadre du salon du Made in France à Paris cette semaine, du 18 au 20 novembre, les organisateurs et puis du coup une partie des exposants ont décidé de lancer ce buzz avec le hashtag C'est fait où, et donc de prendre 5 jours pour demander et interpeller via Twitter et les réseaux sociaux. Où sont fabriquées nos chaussures, nos vêtements, nos produits cosmétiques, voilà.
Nos chocolats.
Nous, on a une partie de la réponse, mais voilà. Donc l'idée, c'était de lancer ce buzz viral sur les réseaux sociaux avec ce hashtag C'est fait où. Donc vous pouvez interpeller vos marques préférées aussi avec ce hashtag-là, ou en tout cas regarder un petit peu, faire de la veille sur ce qui est. Les réponses en tout cas, et puis les tweets qui sont proposés. Et donc jusqu'au 20 novembre, date de la clôture du salon des produits Made in France à Paris, on pourra suivre la viralité de ce hashtag. C'est fait où ? Caroline, tu voulais...
Alors je veux dire que c'était relayé en Lozère par les jeans Tuf, hein, puisqu'ils sont présents au salon du Made in France, et qu'ils ont posé sur une superbe photo avec un petit panneau « C'est fait où ?»
Voilà.
Ouais, effectivement, j'espère que nous aurons l'occasion, comme aujourd'hui, d'être dans l'atelier des jeans Tuf dans quelques temps, dans le cadre de cette émission. En tous les cas, je pense que ce sera aussi une découverte à faire après le chocolat. Je crois que ça peut être une bonne idée.
Ouais. Alors, après le chocolat, du coup, l'essayage des jeans, ça va être moins...
Ouais, voilà,
c'est pas le plateau de dégustation. non, mais c'est sûr. Donc voilà, je voulais vous proposer un zoom sur ce hashtag-là, que vous pouvez bien sûr aller relayer et puis faire un petit tour sur les réseaux. Un hashtag qui a fait partie des trending topics, donc des tendances très relayées au moment du lancement le 18.
Alors le hashtag Lozère maintenant.
Alors sur le hashtag Lozère, donc aujourd'hui, alors j'avais annoncé un petit peu, je m'en doutais, alors on n'a pas eu besoin d'un sondage, mais je me doutais qu'en préparant cette chronique, j'aurais des hashtags autour de la superbe soirée de mercredi soir qui s'est tenue à Pollen sur le lancement du Midi Éco, donc organisé par Midi Libre Lozère et Midi Libre Région. Donc voilà, en effet, le hashtag Lozère cette semaine a fait beaucoup remonter des photos et puis aussi
les prix, environnement
les
massif central, qui est le prix du public, hein, des lecteurs de Midi Libre, Absolu Wood pour le prix du jury, et qu'est-ce que j'ai oublié,
BFP
électronique,
le
prix de la rédaction, voilà.
Et alors moi je peux vous dire que du côté du Twitter de Midi Libre Lozère, beaucoup de demandes d'amis, enfin, je sais plus comment on dit sur Twitter.
De followers, pardon.
De gens qui sont dans les startups de toute la France. C'était très drôle cette semaine parce qu'on a vraiment du coup été très connectés avec ça.
Oui, y compris pour 48FM. Voilà. Et puis bah, on peut annoncer aussi le hashtag de la semaine prochaine. Très clairement, ça sera les assises de la médiation numérique.
Oui, qui commence à bien tourner déjà. Hein.
Oui,
qui commence un petit peu à tourner, oui. Et puis du coup, la semaine prochaine, voilà, l'hashtag battra son plein sur.
Et vous pourrez retrouver trois émissions spéciales sur 48FM, une mercredi à 13h, une mercredi à 18h et une jeudi à 12h30. Voilà, donc,
et on vous encourage vivement à venir dans la prairie des innovations vendredi, parce qu'il y a plein de choses pour le grand public. Et notamment, j'ai appris un décryptage des MOOC, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé à ce micro.
Voilà, donc rendez-vous pour cet événement. Voilà, il fallait quand même qu'on en parle dans cette chronique hashtag.
Bien sûr.
Elle et moi, c'est un peu de temps, un petit différentiel qui nous tient, et c'est très bien. Entre elle et moi, il y a des printemps, quelques années qui ruissellent. Entre elle et moi, c'est comme ça. Regardez bien sur la photo. Les bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes. Regardez bien là dans mes yeux, cette petite flamme s'éteint un peu, telle que j'emprunte. Entre elle et moi, ce n'est pas le vide, il y a dans nos distances. Dans le lit qui sépare nos rives, vit une éternelle enfance, indocile, irraisonnée. Regardez bien sur la photo, mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes. Regardez bien là dans mes yeux, cette petite flamme s'éteint un peu, d'elle que j'emprunte. Regardez bien sur la photo. Mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs étreintes. Regardez bien entre elle et moi, cette petite flamme ne sera jamais éteinte. Elle le sait bien.
Dernière partie de notre émission depuis Langogne, toujours avec Sylvie Fauché, chocolatière, ambassadrice de la Lozère, qui nous accueille dans son atelier pour cette émission Loz Actuali un petit peu spéciale. On s'était dit à la préparation de cette émission à la rentrée qu'on allait justement sortir un peu de nos studios de temps en temps, et c'est avec un très très grand plaisir qu'on a fait cette première sortie ici à Langogne. On commence avec Eric pour cette revue de presse et avec des mathématiciens qui ont découvert la formule du café parfait. Voilà quelque chose qui va bien avec le chocolat, le café parfait.
C'est ça. En fait, lors de notre dernière émission, Adeline donc, nous a expliqué comment réaliser un Rembrandt avec, grâce à l'intelligence artificielle. Donc moi, oui, je vais être beaucoup plus terre à terre et vous donner donc la formule mathématique pour un café parfait. Donc le café, déjà, c'est l'un des breuvages les plus bu dans le monde. Je pense qu'on peut en boire un peu partout dans le monde. Les Français sont de grands consommateurs, même s'ils ne sont pas dans le top 10 mondial. Dans les plus grands consommateurs, c'est tous les pays nordiques. Donc, en fait, ça peut se comprendre un peu.
C'est pas du café, c'est du jus de chaussette, alors.
Non, c'est... Oui, c'est du jus. En fait, c'est de la boisson chaude pour se réchauffer.
Ah oui, parce que, alors, en fait. Franchement, quand on est amateur de café, c'est pas dans les pays nordiques qu'on se régale.
C'est ça. Donc, après, pour en revenir à l'article, donc, il faut savoir que des mathématiciens, ont recherché une formule pour trouver une manière de réaliser le café parfait. Alors, on ne parle évidemment pas du café capsule ou du café dosette, mais bien du café, comme de nos grands-mères, du café filtre. Alors, c'est une étude très mathématique qui prend en compte des équations et des calculs forcément compliqués. Bon, en même temps, si cela avait été simple, ils n'auraient certainement pas fait d'étude. Les paramètres les plus importants sont notamment le temps d'infusion et la température de l'eau. Après, William Lee, l'un des mathématiciens, nous apprend également que l'un des principaux paramètres est la taille des grains moulus, car cela modifie le rapport entre la première extraction de surface et celle plus en profondeur. Donc en gros, suivant la taille des grains, l'eau coulera plus ou moins vite. Donc le temps d'infusion sera plus ou moins long.
Il faut avoir fait l'ENA, non, pour eux.
C'est ça.
Pour te suivre.
Bon, après, voilà, les chercheurs, ils pensent pas que leur étude pourra réellement nous aider à réaliser le café parfait, mais en fait, c'est surtout pour donner des idées aux fabricants de machines pour utiliser justement toutes ces équations pour nous aider à faire des machines qui seront plus adaptées. Après, il manque tout de même donc l'inconnu fondamental, c'est le goût de chacun.
ce qui peut être effectivement important pour faire.
Ça. Personnellement, moi, j'aime bien avoir mon café, un café qui a du caractère. Et puis, je l'associe souvent avec un ou plusieurs carrés de chocolat, justement. Et dans une maison comme celle-ci, on recherche l'excellence en termes de chocolat. Je me disais qu'avoir un café parfait, c'était peut-être pas mal. Après, est-ce que j'ai raison d'associer les deux? Est-ce que le café et le chocolat, ça s'associe vraiment bien?
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai deux. Actuellement, j'ai deux chocolats. Un qui est sur une base de ganache, donc chocolat et crème fraîche, avec du café.
Il y en a un devant nous, là, un petit croustillant café, décoration rouge, là.
Voilà, oui. Alors, tous les deux ont leur caractère. Et là, cette semaine, on a fait un autre essai parce que j'en faisais pas enrobé au lait. Et j'ai fait la ganache enrobée au chocolat au lait. Et c'était pas mal. Ça nous a tous plu. Voilà, un troisième chocolat.
Ah, ça nous fait envie tout ça. Donc, bah, merci pour c'est un article du Huffington Post, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, qu'on retrouvera évidemment sur les réseaux sociaux de Los Actuali. Moi, je voulais vous parler tout à fait d'autre chose. Je voulais vous parler de téléphériques urbains, puisque c'est une des grandes tendances de l'aménagement des villes en ce moment. C'est la création de téléphériques pour permettre le déplacement. En fait, il y avait une loi de 1940 qui nécessitait d'exproprier les gens sous le téléphérique. Donc forcément, ça empêchait de faire d'autres projets de ce style-là. Et finalement, depuis une ordonnance de 2005, il est possible maintenant de construire des téléphériques. Et donc ils vont vraiment prendre une place vraiment comme un type de déplacement au milieu d'un réseau de bus, de tram, de métro. Mais maintenant il y aura aussi le téléphérique qui pourra être une solution. Alors ça existe, on a l'habitude de le voir, on passe dessous sur l'autoroute à Grenoble, on voit ces bulles qui desservent Grenoble, mais c'est pas totalement intégré dans le réseau de transport, alors que concernant concernant d'autres projets, notamment Brest qui doit ouvrir, qui a ouvert ce week-end. Et puis il y a d'autres projets aussi en Île-de-France. Et c'est vrai que par rapport à des besoins, notamment de traverser de grandes infrastructures, de rivières, de choses comme ça, c'est une solution tout à fait originale. Et il faut noter aussi que le leader mondial des téléphériques, c'est un Français. C'est une entreprise française. Donc dans cette semaine du Made in France, on peut parler. Hashtag c'est fait où. Ben voilà, les téléphériques urbains avec l'entreprise Poma qui est un leader de ce secteur. Voilà ce que je voulais vous dire.
Et alors, moi, je t'ai posé la question quand tu nous as annoncé ta revue de presse. En est-il prévu un entre le Foirail et la Croix du Mont Mima pour monter sur le Cosdemande?
Je suis pas sûr que ça soit très très rentable, mais par contre peut-être pour aller, par exemple pour desservir l'hôpital, le Cosdoge, ça pourrait tout à fait s'envisager. Mais bon voilà, on va peut-être, c'est peut-être un petit peu, enfin c'est quand même quelque chose de très grosse capacité en fait. C'est un moyen de transport de très très grande capacité, tout autant qu'un métro. Donc c'est quand même important de le noter. Ouais, à Brest, le téléphérique va transporter en 3 minutes. Deux véhicules de 40, enfin deux cabines de 40 personnes au-dessus d'un
saute-mouton. Tu as bien suivi.
Voilà, au-dessus du fleuve qui s'élargit beaucoup puisqu'il va être presque dans la mer. Et donc voilà, c'est vrai que c'était des solutions originales en tous les cas pour l'aménagement urbain. Voilà, c'est un peu le métier qui revient. Caroline, maintenant, c'est toi qui vas parler du noir contre le rose, enfin du rose contre le noir.
Voilà. Alors j'ai entendu cette nouvelle à la radio et je suis donc allée chercher l'article. Alors c'est un article du Figaro qui annonce cette semaine. Alors je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire au printemps. Anish Kapoor, hein, qui est cet artiste anglais né en Inde, qui a fait ce fameux grand ou énorme vagin là qui avait été exposé à Versailles et qui a été tagué à plusieurs reprises l'année dernière. Donc c'est vrai qu'en France, on en avait du coup beaucoup entendu parler. Et il a acheté au printemps dernier ce qu'on appelle dans le monde artistique le noir absolu. C'est un pigment de noir. Il l'a acheté et il en revendique
la propriété
et du coup l'exclusivité. Il est le seul à pouvoir l'utiliser, ce qui a fait énormément polémique dans le monde artistique, puisque d'autres artistes espéraient pouvoir s'en procurer. Bien évidemment, hein, c'était histoire aussi de faire le buzz. Et donc pour répondre à cet achat, un autre artiste anglais, Stuart Semple, a créé cet automne un pigment qui s'appelle le pink, donc un pigment rose. Et pour répondre à Anish Kapoor, il donne l'autorisation à tous les artistes de l'utiliser, sauf à Anish Kapoor, pour qu'Anish Kapoor se rende compte de ce que ça fait de ne pas pouvoir avoir accès à un pigment en étant artiste. Bon, c'est anecdotique, mais j'ai trouvé ça m'a beaucoup fait rire. Puis j'ai quand même pensé à vous, Sylvie, parce qu'on était dans la préparation de cette émission. Et enfin, voilà, il y a un aspect artistique dans la création de vos chocolats, et je me suis dit quand même, enfin, voilà, ces artistes, ils ont ce côté un peu fou, et puis un peu, ils veulent toujours surpasser leurs confrères et c'est vrai. Puis bon, le noir absolu, ça fait quand même aussi penser au chocolat. Donc c'est vrai que je me suis dit que ça tombait bien dans la revue de presse.
De toute façon, vos chocolats, la recette, elle est unique, elle est que ici.
C'est secret de cacao.
Ah, super.
Voilà, effectivement. Merci Caroline pour cette évocation de cette revue de presse. C'est la fin évidemment de cette émission. Merci beaucoup à Sylvie Fauchet de nous avoir accueillis ici.
Diminuer son plateau.
Merci à vous. J'ai passé un très 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 bon moment.
Voilà, en tous les cas, on était vraiment très contents de faire cette première à l'extérieur chez vous, d'avoir évidemment dégusté de très 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 bons chocolats.
N'allez nulle part ailleurs pour vos chocolats de Noël.
Voilà,
vraiment.
Profitez-en. Et puis en plus, voilà, c'est du local, c'est du Made in France. On est complètement dans l'actu, je trouve que. Ouais, je trouve qu'on est vraiment.
Vraiment.
Vraiment, on est très très bon sur la programmation. Mais... Merci.
Alors, il faut dire quand même qu'on est dans une petite série d'émissions qui nous mènera jusqu'à Noël, voilà. Et qui restera gourmande jusqu'à Noël.
Voilà, on vous a prévu pour la prochaine fois, normalement, le foie gras et pour la fois d'après, le vin. Donc, restez avec nous, vous allez voir, vous allez composer votre table de fête avec nous.
Il y a ceux qui font des régimes avant les fêtes, nous on peut le comprendre.
contraire, voilà, on teste tout avant les fêtes et on remange pour les fêtes.
Et donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, hashtag c'est fait où, et Sylvie a répondu en Lozère. Donc,
voilà. Mais merci en tous les cas. Et donc, évidemment, cette émission est rediffusée le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Ben voilà, on peut que dire vive Langogne et vive Secret de Cacao. Je crois que ça fait pas de mal de temps en temps aussi de sortir de nos studios. Et merci de votre accueil beaucoup.
Vous aurez plein de photos de tout ce qu'on a dégusté sur Twitter, justement, avec le hashtag LozActuali.
Et sur notre nouvelle page Facebook, puisque nous avons une nouvelle page.
Voilà, une page Facebook dédiée à LozActuali que vous pouvez désormais aimer. Vous pouvez venir retrouver. Voilà, en plus on se donne comme ça un droit de suite sur un certain nombre de sujets qu'on a identifiés, les MOOC, voilà, plein de choses où il y a de l'actu qui continue, et donc comme ça vous pourrez suivre l'actu qui se poursuit.
On aura bientôt Bob Dylan à Stockholm.
Et non, il n'ira pas finalement.
Mais on le dit pas.
Il a accepté mais il n'irait pas.
Voilà, et non, il est pris par ailleurs. Bon voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt. Bonne quinzaine. Loz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
Loz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
Loz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.